Zaï Zaï, la radio.
Nous voici de retour sur le Festival Littérature Européenne de Cognac. Vous êtes en direct de Zaï Zaï Radio. On poursuit ce plateau avec un auteur incroyable. C'est Tonino Benacquista. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, auteur, scénariste. Alors, scénariste de cinéma, de bande dessinée. Là, on fait un transmédia total avec vous. Moi, je voulais simplement revenir à une petite chose, à votre histoire, parce que aujourd'hui, si vous êtes présent sur le festival et si on a toutes ces sonorités italiennes dans l'oreille aujourd'hui, c'est parce que le pays invité, c'est l'Italie. Mais vous, Tonino Benacquista, vous n'êtes pas né en Italie. De toute cette fratrie, vous êtes le seul né en France, en banlieue parisienne. Alors, est-ce qu'on peut retrouver simplement le contexte économique et social qui a poussé vos parents à se dire un jour, avec plus ou moins d'envie peut-être, on va passer la frontière et on va venir s'installer en France pour peut-être un avenir meilleur pour notre famille?
En trois mots, oui, parce que c'est l'objet, c'est ce pourquoi je suis venu, c'est parce que voilà, c'est pour le dernier bouquin
livre
que j'ai écrit, où effectivement je raconte l'histoire de mes parents, et donc avant ma naissance. Donc effectivement, c'est l'histoire d'une immigration qui s'est pas spécialement bien passée, parce que mon père voulait partir, pas ma mère, etc. Donc je voulais m'arrêter un peu là-dessus, raconter une histoire un peu particulière. Ils sont partis en 54, moi je suis né, mes frères et sœurs sont nés là-bas. Et moi j'ai pas connu le même déracinement, on va dire, parce que moi je suis né en 61, donc voilà, et je raconte cette histoire-là dans ce livre.
Alors, on se dit que cette langue maternelle, l'italien, je vous ai entendu à la grande librairie, pardon, dire que c'était une langue que vous aviez pris à la maternelle et qui n'était pas votre langue maternelle, finalement, le français. Alors, comment on a ces deux sonorités dans l'oreille et comment on construit son vocabulaire, sa richesse de mots, avec aujourd'hui plus d'une vingtaine de romans et de nouvelles à son actif?
Oui, ça c'est peut-être une histoire un peu paradoxale, parce qu'il n'y avait pas de livre à la maison, et il n'y avait pas de lecteur. Ma sœur, il y avait une de mes sœurs qui lisait, qui aimait bien la lecture, mais sinon il n'y avait pas de livre. Mes parents n'ont jamais lu, et moi c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis approprié, disons, la langue française. C'était ma langue de naissance, hein, puisque moi je suis né en France, mais disons que mes parents parlaient l'italien à la maison, ou en tout cas un dialecte. À partir de... C'est à l'école que j'ai vraiment appris l'italien, c'est-à-dire le vrai italien, on va dire. Ce qui fait qu'il y avait leur dialecte, il y avait l'italien que j'apprenais à l'école, et puis il y avait la langue de la rue, et des copains, et de l'école, et ça, c'était le français. Alors, voilà, moi, ce que je raconte d'un peu particulier, c'est que l'envie d'écrire ne m'est pas venue par l'amour de la lecture. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ça s'est fait à l'inverse, c'est-à-dire que j'ai commencé à écrire avant de lire. Et c'est tout un paradoxe que j'explique d'ailleurs dans ce bouquin, voilà. Donc ce serait très très long de développer, mais le goût de la lecture m'est venu après. Pour moi, les classiques français, c'était comme des espèces de citadelles qui étaient imprenables. En revanche, écrire et raconter des histoires était quelque chose qui m'était nécessaire. Et puis petit à petit, je me suis dit que j'allais en faire ma vie, voilà.
Et oui, parce que c'est de l'écriture de fiction.
Oui.
Voilà, finalement ce dernier ouvrage est peut-être le seul ouvrage inscrit dans votre histoire familiale.
Voilà, non, c'est le seul non-fiction, voilà, c'est l'histoire de ma vie et de mes parents. Et puis je m'arrêterai là d'ailleurs, parce que j'ai plus rien à dire sur cette histoire-là. et puis je reviens à la fiction avec bonheur, parce que voilà, c'est ma vie.
Alors, très rapidement, à 18 ans, vous commencez, vous démarrez des études de cinéma. Donc, on ne démarre pas sur l'écriture, justement. On démarre sur un média qui vous rattrapera finalement assez rapidement derrière. Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à cette formation de cinéma? Comment on passe au lycée à se dire que on va être à l'écriture, mais peut-être à l'écriture de scénario?
Oui. C'est-à-dire que... Enfin, moi, je voulais écrire des romans, hein, mais je voulais aussi savoir comment on fabriquait un scénario. Et en fait, les études de cinéma en question, c'est peut-être un petit peu dit comme ça, c'est peut-être un peu protocolaire, parce que c'était la fac de Censier, ça n'avait rien à voir avec la Fémis ou je ne sais trop quoi. J'aurais été incapable d'ailleurs d'être dans un cursus aussi sérieux, compliqué, etc. Moi, je voulais juste être un peu un touriste. Il y avait un cours de scénario à la fac de Censier, et puis je voulais savoir comment, même ne serait-ce que physiquement, ça se présentait, un scénario. Et puis c'est un métier qui m'a enthousiasmé, enfin en tout cas l'idée du... c'était pas encore vraiment à la mode, hein. C'était, moi je parle des années, je passais mon bac en 79, 80, voilà, je me suis inscrit à ce cours de scénario. Les scénaristes n'avaient pas du tout la cote à l'époque. Aujourd'hui, maintenant, on parle de showrunner. Maintenant, il y a des séries partout, tout le temps. Et ça déboule. Et il y a des écoles de scénaristes. C'est très, très bien qu'on ait rendu aux scénaristes ce qui, pour moi, est sa vraie place.
Et d'ailleurs, les scénaristes ont peur aujourd'hui. On l'a vu avec cette longue grève des scénaristes aux États-Unis, oui. avec l'intelligence artificielle. Oui, mais ça, c'est encore autre chose.
Oui. C'est encore autre chose. Mais il y a à craindre. Il y a vraiment à craindre. Oui. L'imagination humaine et celle de la machine, enfin voilà, il y aurait tout un débat là-dessus, mais il y a à craindre.
Alors, un premier livre édité en 85, et puis très vite, 9 ans après, une première adaptation de votre livre La Maldole des Sleeping en téléfilm. Alors, moi j'avais aussi envie de vous questionner sur, en fait, concrètement, quand on est auteur de romans, on est édité, donc on a aussi tout un entourage qui vient, qui est là pour accompagner les sollicitations, ne pas recevoir les choses directement aussi pour des demandes d'adaptation. Mais en fait, concrètement, comment ça se passe quand on est auteur? Est-ce qu'on accepte directement? Est-ce qu'il y a une première lecture, un filtre qui est fait avant que ça arrive jusqu'à vous, des demandes d'adaptation qui sont faites?
Déjà, il n'y en a pas autant que ça. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas 10 demandes qui... Enfin, ça dépend, il y a des bouquins quand même qui sont très très sollicités, mais... ça se passe très naturellement par l'éditeur, c'est-à-dire que si votre bouquin a été lu, c'est parce qu'il a été publié, et donc c'est l'éditeur qui reçoit les demandes d'adaptation, et puis on vous les transmet, et puis après on en parle, quoi. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que j'ai été adapté, j'ai toujours eu à peu près la même... ça a toujours été la même façon d'opérer, c'est-à-dire que on me dit, voilà, un tel veut tirer une adaptation de ton bouquin. Bon, je rencontre la personne, j'ai pas toujours dit oui. Je veux savoir pourquoi elle veut adapter ce livre-là et dans quel esprit. Et quand je m'aperçois que c'est pas forcément, il n'y a pas de mésalliance absolue, qu'on parle à peu près de la même chose, et c'est pas du tout ça, on peut en parler de manière plus générale sur une adaptation doit-elle être fidèle ou pas. Bon, là, la question ne se pose pas. Je veux juste connaître l'esprit. Savoir pourquoi ce livre, pourquoi ce choix. Parce que c'est pas rien. Il faut vraiment. Après, pour eux, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Il y a une équipe qui se met en place. Et ça prend beaucoup de temps et de travail. Donc, je veux savoir pourquoi. Et puis, si je suis convaincu par les réponses, à ce moment-là, je me retire totalement de cette entreprise. Et d'ailleurs, même, juste pour répondre plus concrètement à votre question, même de toute façon, contractuellement, à partir du moment où les droits sont cédés, c'est terminé pour l'auteur. C'est-à-dire qu'il ne... À moins vraiment de cas exceptionnels avec des stars, peut-être que Stephen King, lui, a droit de regard sur le scénario. Mais vous avez un droit de regard, contractuellement, on vous dit, bah oui, on tient absolument à avoir votre avis. Mais de toute façon, si les droits sont cédés, ça y est, c'est d'une certaine manière, vous ne pouvez pas vous opposer, et ce qui est la moindre des choses d'ailleurs, parce que développer un scénario, c'est long, ça coûte cher, et on n'a pas envie d'être suspendu à l'appréciation de l'auteur qui a dit « Oh, en fin de compte, non, oh, je ne suis pas d'accord. » Bon, ça, c'est pas possible. Donc les droits sont cédés, ils sont cédés.
Alors, il y a quelque chose de particulier dans votre travail, c'est que vous avez, si j'ai bien compté, 8 textes, que ce soit des romans ou des bandes dessinées d'ailleurs, qui ont été adaptés. Justement, l'imaginaire, comme on travaille sur des œuvres de fiction, l'imaginaire dans un roman travaille énormément, l'image mentale est vraiment là, donc le réalisateur a une liberté aussi de rendre corps, de rendre vie, d'exploser les décors avec sa caméra. La bande dessinée, c'est encore autre chose, parce que déjà, vous avez, avec l'illustrateur, imprimé une image mentale de cette histoire-là.
Oui, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de bandes dessinées qui sont adaptées, parce que tout simplement, les producteurs savent où ils vont. C'est-à-dire qu'ils ont déjà leur visuel, d'une certaine manière. Bon. Donc ils savent à peu près, ils ont déjà quelque chose. Quand c'est juste le livre... Ils sont un peu plus inquiets. Ils vont dire, ah bah oui, mais alors, on va raconter quelle histoire, quand on fait les illusions perdues, on raconte quelle histoire, etc. Ils ont besoin d'être rassurés par... La BD les rassure. Voilà, ça, c'est pour ça que... Moi, j'en ai 2 ou 3 qui ont été adaptés, effectivement. Parce que, d'une certaine manière, c'est comme une espèce de storyboard avant même l'écriture, proprement dite. Et puis, alors, après... Voilà, après, comment dire, on peut se poser la question de la fidélité. C'est toujours une question importante. On la met toujours au centre. C'est-à-dire, si on peut parler... Enfin, moi, je peux sortir de mon cas personnel, hein, mais je suis assez amateur d'adaptation. Mais je ne cherche pas forcément la fidélité. Je suis toujours curieux de me dire comment un tel a transformé ce bouquin. Et là, c'est infini. On pourrait y passer des heures. Mais il y a voilà, il y en a qui sont magnifiquement réussis, d'autres peut-être moins. Voilà. En tout cas, pour l'auteur, c'est toujours gratifiant de voir qu'à un moment donné, tel personnage, on le voit à l'écran. Effectivement, c'est tout bête, mais c'est magnifique, quoi. C'est incroyable, quoi.
On parle d'adaptation, on parle de fidélité, on va se décaler un tout petit peu. Zaï Zaï Radio est une radio qui est installée sur Angoulême. On parlait ville de l'image, de la bande dessinée. Comment on plonge, comment on se fait interpeller pour prendre en main le scénario d'un Lucky Luke?
C'est-à-dire
parce que du coup, vous avez co-écrit avec Daniel Pennac. Parce qu'on parlait de fidélité. Là, il y a une veine. Oui. On sait d'où vient le personnage. Oui. On sait par quoi il a été. Il est passé. Et comment justement, on s'adapte et on se met dans des chaussons. Quelle marge justement de fidélité, de liberté, on se donne encore plus à 4 mains comme
c'est
ça.
C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que. Parce que Lucky Luke n'appartient à personne, en fait. Il appartient au lecteur. Il est légendaire. Et on n'en fait pas n'importe quoi. Alors, quand on s'occupe de Lucky Luke, on sert le cow-boy. On doit le servir. Mais il faut lui faire vivre une aventure qu'il n'a pas déjà vécue 75 ou soit, je sais plus, 80 peut-être maintenant. 80 aventures quand même. Hein. Donc il faut en trouver une. On se dit, tiens, je reconnais Lucky Luke, mais en même temps, je suis surpris avec ce que j'attends. Voilà. Et donc, avec Pennac, on avait trouvé deux histoires. La première, qui était justement l'agence Pinkerton. Voilà, on a celle-là n'avait pas été vécue par Lucky Luke. Mais à la fin, de toute façon, on sait qu'il partira sur son cheval. Voilà. Donc il partira pas sur la lune, je pense pas qu'il va se marier d'ici très longtemps. Voilà, il faut respecter un cahier des charges et en même temps innover et surprendre, mais qu'on le reconnaisse toujours.
Est-ce que la question de l'écriture en case, l'écriture de scénario, l'écriture romanesque, qui en plus vous écrivez des livres longs qui s'installent, qui s'inscrivent, je repense toujours à Saga où on est dans un huis clos mais qui s'inscrit sur le temps long, où on attend aussi avec ses personnages, le scénario de bande dessinée, lui, il arrive à un tout autre endroit du rythme de l'écriture saccadée, séquencée en cases. Est-ce qu'on arrive facilement, est-ce qu'on n'est pas frustré quand on part sur un scénario de bande dessinée avec cette écriture beaucoup plus où on va devoir ramasser finalement cette intrigue-là et où l'illustration va venir compléter le récit?
C'est-à-dire, en fait, c'est pas ramassé dans le temps. C'est-à-dire qu'une BD... dans le temps, c'est-à-dire que... Voilà,
dans le déroulement de l'histoire.
Oui, c'est-à-dire que ça peut se dérouler sur 30 ans. Sauf que la bande dessinée est l'art de l'ellipse. Et tout le charme de la bande dessinée, c'est ce qui se passe entre deux cases. Et c'est ce que nous reconstituons avec notre imaginaire entre les deux cases. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il faut... Il faut s'insinuer dans le regard du lecteur entre ces deux cases. Oui, il faut les définir, il faut donner des consignes à son dessinateur, mais il y a énormément de travail qui est fait par le lecteur, plus qu'au cinéma, plus que dans le roman. Essentiellement dans la BD, là c'est vraiment l'art de l'ellipse. Mais alors après, sur les contraintes, etc., après ça dépend beaucoup du dessinateur, parce que moi, si je travaille avec Loustal ou avec Ferrandez, je ne vais pas travailler de la même manière. C'est-à-dire qu'eux ont un certain trait, ils ont un univers, et c'est au scénariste de leur proposer quelque chose qui fonctionne avec leur univers. Et je ne vais pas proposer à Loustal ce que je proposerais à Ferrandez et réciproquement. C'est aussi, ou Florence Sestac, ou... je travaillais avec quelques-uns. Et donc là, c'est autre chose. Ça, il faut partir du trait du dessinateur. Mais après, pour la narration, là, je peux rentrer dans le détail. Mais bon, voilà, ils ont tous une manière de fonctionner différemment. C'est des allers-venus entre l'auteur et entre le scénariste et le dessinateur. Voilà. Mais le cinéma, c'est totalement autre chose. L'écriture romanesque est un exercice de solitude absolue, où on est vraiment seul, où on a tous les tenants, tout l'univers vient de l'écrivain. Ce qui fait que c'est bien ensuite de se retrouver avec un metteur en scène qui a déjà lui des envies, et le scénariste est une espèce de pourvoyeur d'idées. Mais on sait qu'au final ce sera son film. Et c'est très différent. On demande beaucoup aux scénaristes, on demande souvent, mais pourquoi vous passez pas, scénariste de cinéma, j'entends, pourquoi vous passez pas à la mise en scène, pourquoi, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une frustration? Dans mon cas, non. Dans mon cas, je n'ai aucune envie de passer à la mise en scène. Ça m'a jamais effleuré l'esprit, mais jamais, pas une seule fois. Mais tout simplement parce que j'ai mes bébés à moi. Je ne suis pas frustré. J'ai mes propres enfants. Celui qui n'est que scénariste, ce qui est déjà énorme, mais qui est scénariste et qui, à un moment donné, voit tous les projets qu'il écrit absorbés par un imaginaire autre que le sien, peut, à un moment donné, se sentir frustré et vouloir passer à la mise en scène. Et ça, c'est très... Ça, il y en a beaucoup qui sont passés à la mise en scène pour ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se sont dit, je veux, moi, porter jusqu'au bout le sujet.
Et puis certains qui se disent que quand on leur fait une demande d'adaptation, ils ont extrêmement de difficultés à céder parce que ce bébé, ils n'ont pas coupé le cordon, comme vous le disiez tout à l'heure.
Oui,
à un moment donné, une fois que le livre est édité, une fois que l'album est édité, il vit aussi sa vie entre les mains des lecteurs, entre les mains de tout ce monde-là.
Oui,
on arrive déjà à la fin de notre rencontre. Oui. C'est extrêmement dommage parce qu'on avait de quoi poursuivre. Juste revenir à l'Italie. Aujourd'hui, Benino Benacquista, Tonino Benacquista, pardon. Qu'est-ce qui est italien dans votre, chez vous? Qu'est-ce qui fait l'Italie? Est-ce que il y a de la cuisine? Il y a de la musique? Qu'est-ce qui dans votre quotidien construit l'Italie de vos parents?
Et vous me dites qu'on a 30 secondes.
Non, on peut avoir le temps.
Mais j'aurais vraiment du mal à répondre. Moi, c'est vrai qu'après avoir écrit un bouquin sur les racines et les origines, il a fallu que j'y retourne parce que je n'étais pas allé pendant 40 ans. Et donc, je suis retourné en Italie cette année et l'année dernière, comme ça, juste pour voir. Et donc, cette question que je me posais à l'époque, je pourrais me la poser aussi aujourd'hui, c'est-à-dire quelle est l'italianité en moi, qu'est-ce que j'ai de profondément italien. Et je ne saurais pas quoi vous dire, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de chose qui s'entremêle, deux cultures qui s'entremêlent. En tout cas, je sais pas, je vais autant... C'est vrai que j'ai toujours beaucoup d'affection pour le cinéma italien, mais c'est vraiment pas à l'exclusion de tous les autres... la musique, la cuisine, alors peut-être la cuisine, ce qu'on peut appeler, ce que Freud appelait la cuisine totémique, c'est-à-dire celle du clan, celle de...
Peut-être il y a quelque chose transmise.
Oui, exactement. Alors peut-être que là, il y a quelque chose qui date de l'enfance, mais comme mes parents ne lisaient pas de livres et n'écoutaient pas de musique, je peux pas être beaucoup plus exhaustif sur la question.
Ben écoutez, on reparlera de cuisine en tout cas avec nos invités de la deuxième partie d'émission. D'accord. Aux abattoirs tout à l'heure à partir de 20h30. Merci beaucoup.
Merci
Tonino Benacquista. Alors si j'ai bien compris, une adaptation peut-être en cours en série de Homo Erectus, peut-être sur France Télé.
Exactement.
À découvrir.
Vous êtes très renseigné. Vous êtes très renseigné.
Voilà.
Bravo.
Merci beaucoup et puis à retrouver au cinéma en bande dessinée dans les rayons de toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup, ce fut un plaisir. Bonne fin de festival à vous.
Merci à vous.
Merci.
Au revoir.